Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa semaine sur le renseignement avec ce soir Bernard Bagelet, ancien directeur de la DGSE. Nous avons vu hier que l'un des défis, peut-être le principal défi du renseignement dans une société démocratique, était de combiner, de concilier deux impératifs contradictoires, celui du secret, celui de la transparence. Et plus encore, le soutien nécessaire de toute société qu'elle doit à une institution qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne peut pas connaître. D'autant que ce milieu du renseignement a été bouleversé ces dernières années par la technique, on pense à l'affaire Snowden, il a été aussi bouleversé par les affaires de terrorisme qui ont montré à l'opinion publique française l'importance de sa fonction. Voilà des questions, des sujets que l'on va aborder ce soir avec Bernard Bagelet, ambassadeur de France, ancien directeur de la DGSE, je viens de le dire, et qui a signé chez Plon un livre qui retrace sa carrière de diplomate, « Le soleil ne se lève plus à l'Est, mémoire d'Orient d'un ambassadeur peu diplomate ». Bonsoir Bernard Bagelet.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous avez signé ce livre et vous avez en quelque sorte dans votre vie de haut fonctionnaire, vous avez combiné deux fonctions qui semblent un petit peu antinomiques, celle d'un diplomate que vous avez été et dans des pays très 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 particuliers, des pays chauds dans lesquels à tous les sens du terme, dans lesquels il se passait beaucoup de choses, et puis ensuite coordinateur du renseignement à l'Élysée, puis directeur général de la DGSE. Donc vous avez connu les différents aspects des relations extérieures de la France. Comment est-ce que vous, Bernard Bagelet, vous combinez ces deux dimensions de votre carrière ?
Alors en fait, ce sont deux métiers différents, ambassadeur et responsable d'un service de renseignement. Dans d'autres pays, parfois, les deux métiers peuvent être confondus ou à certains moments. Je ne citerai pas lesquels, mais ce n'est pas le cas en France. Les diplomates sont des diplomates et les agents de renseignement sont des agents de renseignement. Mais il y a beaucoup de regroupements parce que le chef de poste de la DGSE informe dans les différentes ambassades de l'ambassadeur de ce qui se passe. Il y a des choses qu'il lui dit pas, mais en revanche tout ce qui touche à la sécurité des ressortissants français, le représentant de la DGSE a le devoir de le dire à son ambassadeur. Et puis comme ambassadeur, j'ai eu aussi à traiter d'affaires d'otages et en liaison étroite avec la DGSE à l'époque. Et puis on a aussi à la DGSE, en tant que patron de la DGSE, je rencontrais des chefs d'État en Afrique, au Moyen-Orient, et certains d'entre eux que j'avais connus dans mes fonctions précédentes, ou de très hauts responsables du renseignement en contact direct avec leur chef politique en Chine, en Russie, etc. Et donc ceci permettait d'avoir non pas une diplomatie parallèle, parce que le chef de la diplomatie, c'est le ministre des Affaires étrangères, sous la responsabilité du président de la République, mais de faire passer des messages, et notamment dans des pays avec lesquels le dialogue diplomatique est un peu difficile. Parce que le responsable d'un service de renseignement peut dire des choses que le diplomate ne peut pas dire.
Oui, c'est très intéressant parce que on définit un diplomate, et d'ailleurs quand on dit dire les choses de manière diplomatique, ça veut dire les dire avec une telle neutralité que la manière de les dire ne va pas heurter le message. Il y a une sorte de, comment dirais-je, on neutralise l'acte d'énonciation pour que le message soit le plus pur et le moins pollué possible. C'est ça la philosophie du diplomate.
Alors c'est vrai, Antoine Garapon, mais malgré tout, la diplomatie, ça consiste à dire les choses, mais à les dire sans blesser. Il faut quand même les dire. Bon, moi, parfois, j'ai des difficultés à dire les choses sans toujours blesser. Ça m'est arrivé parfois de dire des choses un petit peu abruptes. Ça m'a joué des tours. Mais la franchise, c'est aussi une façon de créer la confiance. Mmh. Ça marche pas avec tout le monde, mais ça marche quand même avec la plupart des interlocuteurs qui savent que vous ne leur racontez pas d'histoire.
Plus particulièrement dans le monde arabe, Bernard Bajolet.
Alors, dans le monde arabe, là aussi, ça dépend des interlocuteurs et du degré de confiance, d'amitié qu'on peut avoir avec tel ou tel. Mais je pense que, contrairement à une idée reçue, la diplomatie, ça ne consiste pas à dire des mensonges. Ça consiste à dire des vérités, mais à les dire en les faisant comprendre par l'interlocuteur et encore une fois sans le heurter.
Ce qui est très intéressant et très frappant quand on lit votre livre d'ailleurs, c'est de voir à quel point dans tous les pays dans lesquels vous avez été en poste, la Syrie, l'Afghanistan, la Bosnie, l'Irak, la Jordanie, etc. Beaucoup de pays, finalement, vous dites à chaque fois, certains sont devenus de véritables amis.
Oui, c'est vrai, parce que justement, l'amitié, elle est fondée sur des choses indéfinissables, hein, sur l'entente entre deux personnalités, mais elle est fondée aussi sur des relations de confiance. Et c'est en ayant travaillé ensemble, en ayant bâti cette confiance, en ayant compris aussi la culture de l'autre et le contexte dans lequel il évolue, ses contraintes, que l'on peut bâtir une relation d'amitié. Cette relation, elle peut aussi être mise à profit pour les relations entre deux États.
Il est essentiel de connaître la culture de l'autre, Bernard Bajolet. Vous parlez l'arabe, vous avez fréquenté aussi beaucoup de clubs de chevaux. On retrouve les chevaux très souvent tout au fil de votre livre. Ça veut dire aussi comprendre la religion en Irak, où il y a ces tensions entre les chiites et les sunnites, où il y a cette branche salafiste. Votre rôle de diplomate était de vous pénétrer de la culture, y compris religieuse, spirituelle, de tous ces peuples.
Oui, c'est indispensable parce que l'islam est tellement prégnant dans tous les pays que j'ai connus qu'on peut difficilement les comprendre sans avoir vraiment approfondi la connaissance de l'islam. Et donc sans avoir lu le Coran, il me paraît difficile de comprendre un des éléments dominants de la culture de ces pays, même si l'islam tel qu'il se pratique en Afghanistan n'est pas celui qui se pratique ou qui se pense, qui se vit au Maghreb ou en Syrie ou etc. et en Irak. Et puis il y a différentes communautés, donc il faut aussi s'imprégner de tout cela. Mais c'est vrai que ce passage culturel me paraît tout à fait indispensable.
Alors, Bernard Bajolet, vous aimez les hommes, vous aimez les rencontrer, ça se sent à travers ce livre. Vous avez noué beaucoup de relations et vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas dire de mensonges, ce que l'on comprend très bien et on vous suit sur ce point. Mais alors, quand on est patron de la DGSE, par définition, on peut pas tout dire. On est bridé. Quoi, c'est comme ça que du moins je me représente ces fonctions. Il y a une part de secret qu'il vous faut absolument préserver, absolument garder avec tout le monde, y compris avec vos proches, y compris avec vos amis.
Alors, c'est absolument vrai, Antoine Garapon, car la DGSE, c'est un service secret, c'est même le seul service secret français qui s'avoue comme tel. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et chaque membre de la DGSE, jusqu'au directeur général, est tenu respecter strictement le secret de la défense nationale. Le secret existe aussi, et il a pour but de protéger l'État, de protéger nos sources, notamment. Mais ceci ne nous amène pas à mentir. Ça nous amène à mentir par omission. Mmh. Donc moi, je vous avoue, j'étais toujours un peu gêné quand j'allais témoigner. Je continue à le faire, d'ailleurs, de temps en temps, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour les commissions d'enquête, il faut lever le bras et jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, rien que la vérité, oui, ça je peux le dire, mais toute la vérité, certainement pas, parce que on est tenu au respect respect du secret de la défense nationale.
Alors on sent très bien que vous êtes très attaché, et c'est, je crois que c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de gens dans les services, dans la diplomatie et partout en France, très attaché au service de l'État et à servir l'État et à le servir de le servir dans un cadre qui soit un cadre démocratique. Mais comment faire quand on est tenu au secret, qu'on est à la tête d'une administration assez opaque, nécessairement opaque? Comment est-ce que vous combinez ce respect de la loi, et je crois d'ailleurs auquel les agents de la DGSE sont également très attachés, Bernard Bajolet? Comment est-ce que ça se passe?
Alors oui, en réalité, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les agents de la DGSE sont très légalistes. On a eu un moment de flottement après l'affaire Snowden, aussi du fait qu'il n'y avait pas de loi quasiment sur le renseignement. Il y avait un petit bout de loi de 1991 qui avait été suscité par l'affaire des écoutes de l'Élysée d'ailleurs, et qui portait sur l'encadrement des interceptions téléphoniques. Mais cette loi n'était plus adaptée parce que elle avait été adoptée à un moment où le portable ou Internet n'existait pas. Les technologies ont considérablement évolué, et donc il y a quand même une jurisprudence qui s'est construite, une jurisprudence très créative, par la commission chargée de contrôler ces interceptions.
On se demande comment il faut entendre créative quand vous dites
qui interprétait la loi. Ouais. Mais tout ça était très fragile, et on l'a vu au moment de l'affaire Snowden, où la commission en question, qui s'appelait la CNCIS, a été prise de vertige devant la jurisprudence qu'elle avait elle-même élaborée, et donc c'est à ce moment-là que, pour ma part, j'ai tout de suite dit au président de la République, François Hollande, je lui ai dit, écoute, c'est plus possible de continuer comme ça, il faut une loi. Et d'autant plus que les agents de la DGSE, c'est des agents qui sont au service de l'État, de la France. Et ils ne peuvent pas imaginer de ne pas agir dans le cadre de la loi française. Oui. Pour eux, c'était absolument fondamental.
Ce qui est paradoxal, parce qu'il faut qu'ils obéissent à la loi française dans des théâtres d'opération très loin de la France, parfois, et dans lesquels, là, pour le coup, ils ne respectent pas la loi du pays.
Alors, c'est tout à fait vrai, mais au moins vis-à-vis de la loi française, il faut que un agent qui soit l'agent de la DGSE, l'agent de la DGSI, puisse agir conformément à la loi. Donc, d'où les lois, parce que François Hollande au départ n'était pas enthousiaste face à cela, parce que ça ne figurait pas dans son programme de campagne, et que il voyait tout de suite les risques d'un débat sur le renseignement,
donc il ne voulait pas,
qui n'était pas dans les axes qu'il avait fixés au départ. Bon, finalement, il a fini par se rendre compte que cette loi était en effet indispensable.
Et c'est vous, Bernard Bajolet, qui avez insisté pour cette loi?
Je suis parmi ceux qui ont le plus insisté pour avoir une loi, et une loi présentée sous forme de projet, parce qu'à un moment on parlait d'une proposition de loi du Parlement, moi, qui ne me paraissait pas adaptée. Et j'étais, si je peux dire, pris par mon propre piège, parce que le Conseil constitutionnel, auquel François Hollande a pris l'initiative de déférer la loi.
Oui, oui. Ce qui montre qu'il n'était pas très à l'aise avec ça.
Pas très à l'aise, il a déféré au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a censuré un passage qui était précisément celui auquel j'étais le plus attaché, intéressé, qui était le passage sur la surveillance internationale. Parce que le Conseil a estimé que ce passage n'était pas suffisamment détaillé et qu'il renvoyait à des décrets, dont un décret secret. Et ça, il ne le voulait pas. Bon, on a compris, on a donc reformulé le projet en incluant ce qu'on avait initialement prévu de mettre dans le décret, et c'est passé. Et c'est très important. Mais Antoine Garapon, vous avez raison de dire que, en fait, autant dans le cadre de la loi française, et c'est une excellente loi, je dois le dire, extrêmement détaillée, très protectrice des libertés aussi, on agit dans le cadre de la loi française, mais en revanche, à l'étranger, et je le dis peut-être un peu, façon un peu abrupte, nous sommes hors la loi. Parce que la DGSE fait aussi à l'étranger ce qui est interdit aux services étrangers de faire sur le sol français. C'est-à-dire que nous faisons du renseignement, et avec le but, on fait aussi du contre-terrorisme. Évidemment, la loi définit tout ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. C'est-à-dire que nous recherchons des renseignements pour éclairer le gouvernement français dans sa politique étrangère. renseigner le gouvernement français sur ce qui se passe dans tel ou tel pays qui a une importance majeure pour nos intérêts. Or ça, c'est interdit de le faire vis-à-vis des lois de ces
Bien
pays-là.
Sûr.
Et ça présente des risques. D'ailleurs, j'aurais souhaité que la loi française protège davantage l'agent français qui agit à l'extérieur.
Parce que pour vous, Bernard Bajolet, vous êtes le patron de la DGSE. Vous observez la loi française, vous agissez dans l'intérêt de l'État et vous allez recueillir des informations. Ces informations vont être concrétisées par une décision politique qui ne vous revient pas, mais qui peut parfois va être exécutée par des agents aussi de la DGSE.
Oui, alors les services sont sous l'autorité du gouvernement, sous l'autorité du président de la République notamment, et ça un peu comme le chef d'état-major des armées. Hein, c'est-à-dire que le directeur de la DGSE relève du ministre des armées, mais il relève aussi du chef de l'État. Qui est le chef des armées. Bon, il y a une partie militaire aussi au sein de la DGSE. La DGSE, elle agit sous un contrôle politique, ce qui est tout à fait important. Elle n'agit pas de son propre chef, et donc elle
jamais.
Jamais. Elle peut être sur la mise en œuvre. Oui, c'est un service qui dispose d'un grand degré d'autonomie. Mais sur les orientations politiques, elle n'agit pas comme cela de son propre chef. Elle agit dans le cadre d'orientations, de directives politiques. Et d'ailleurs, il y a, depuis l'époque de François Hollande, un conseil de défense qui se réunit chaque semaine. Hein, et ça, c'est un moment très privilégié aussi. Hein,
auquel vous appartenez de plein droit. Le patron de la DGSE...
Le patron de la DGSE assiste, et je pense que c'est toujours comme ça aujourd'hui, de plein droit à ce conseil de défense. Et donc, toutes les semaines, avant le conseil des ministres, j'étais dans le bureau voisin dans le salon voisin du bureau du président de la République, avec les principaux ministres, le Premier ministre, les principaux ministres, et les chefs des services de renseignement, le chef d'état-major des armées. Donc c'est un moment où le chef de l'État pouvait donner ses directives. On agit que dans ce cadre-là, et même si on n'est pas d'accord, on met en œuvre la politique qui est celle décidée par le président de la République.
Mais Bernard Bajolet, est-ce que c'est pas un peu angoissant de savoir qu'on a des personnels à l'étranger sans protection, parce qu'ils ne respectent pas la loi, ils ne sont pas protégés non plus par la loi étrangère. J'imagine que c'est des situations périlleuses qui doivent être assez pesantes, humainement, je veux dire.
Oui, c'est des situations périlleuses. La DGSE est un service qui est très, très exposé, parce que c'est un service qui est engagé dans des opérations à l'étranger. Et moi-même, d'ailleurs, j'avais créé un service pour superviser les opérations, me tenir au courant 24 heures sur 24, assurer une bonne coordination entre elles et avec aussi les forces armées françaises. Et je dois vous dire que certaines nuits, j'ai du mal à trouver le sommeil parce que j'avais des hommes sur le terrain qui risquaient leur vie et certains l'ont malheureusement laissé. Donc on a et quand c'est le cas, eh bien on ne peut pas rendre hommage publiquement à ces morts. Donc les cérémonies ont lieu en secret. Les familles ne peuvent pas dire qu'elles ont perdu un mari, un fils, un père ou quand il s'agit d'un homme qui est mort pour la France, parce que ça reste secret. C'est parfois un peu difficile à assumer, surtout quand on sait que vous avez été la personne qui a ordonné cette mission. Hein. Donc ça, c'est une partie, difficile, je dois dire, humainement, mais ça fait aussi la grandeur de ce service.
Et l'abnégation, oui, c'est le sens du sacrifice, finalement, des agents de la DGSE.
Voilà, le sens du sacrifice, et moi, j'ai toujours été frappé ça ne va pas toujours jusque-là, heureusement. Hein. Mais j'étais frappé pendant toute cette période que j'ai vécue à la DGSE pendant ces 4 ans, par le sens du devoir, l'abnégation absolue, le sens du service de l'État, de personnes qui ont peu de droits, qui n'ont pas de droit syndical, même si maintenant il y a un droit de former des associations professionnelles, mais pas de droit syndical, pas de droit de grève ni de retrait, etc. Je veux dire, je n'ai jamais...
Pas de clause de conscience.
Je n'ai jamais... Non, parce que les gens travaillent pour l'État et ils sont... comment dire, ce sont des... on discute chaque opération avec eux. Donc il y a cette confiance qui existe, cette conscience aussi de travailler pour l'État, d'agir pour le compte de la France. Je n'ai jamais eu à demander à des agents, par exemple, de se rendre à leur bureau en dehors des heures de travail, la nuit, le week-end. Au contraire, je devais les inciter à prendre du repos. Et donc pour ça, c'est très gratifiant de diriger un service comme celui-là.
Et alors Bernard, je vais vous raconter dans votre livre beaucoup d'histoires très intéressantes, beaucoup d'histoires qui montrent la proximité humaine de l'ambassadeur de France, des services de sécurité, lorsqu'on est dans une situation comme la situation en Irak. Où il y a des attentats et des attentats qui cherchent à vous viser personnellement d'ailleurs et qui sont déjoués, qui sont essayés d'être contenus par des gendarmes. Vous rencontrez un gendarme qui vous parle de son sens de sacrifice quand vous êtes en Irak.
Oui, alors tout à fait, Antoine Garapon, et ce gendarme, tout le monde le connaît aujourd'hui, c'est Arnaud Beltrame. Et au cours de mes missions, il se trouve que on était prêt aux situations qui auraient pu se terminer dramatiquement, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, etc. Mais ça faisait partie aussi de notre métier. On intégrait ça parfaitement. Et le sort a voulu que je perde 2 de mes collaborateurs dans d'autres circonstances. Arnaud Beltrame à Trèbes, comme ceci est maintenant tout à fait connu. Et d'autre part, un policier qui était mon chef d'escorte quand j'étais à Kaboul, et qui était Franck Brinsolaro, qui a été tué lors de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Donc j'ai toujours en mémoire ces deux collaborateurs qui étaient prêts à commencer, comme ils l'ont démontré, à risquer leur vie pour la France.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Les matières à penser, toujours avec vous, Bernard Bajolet, qui avez décidé de nous faire entendre un air de Férouse. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi parle cette chanson?
Oui, alors cette chanteuse, cette grande chanteuse, chante la Atini Naya Warane, donne la flûte et chante Faninu Naya Yapra Badan Yafnal Wujud, et le son de la flûte reste quand tout le reste est terminé.
Et c'est ce que vous évoquez, ces années, ces longues années.
Oui, alors, et voilà, tout à fait, parce que cette Fairuz a aussi, c'est une chanteuse politique, hein, qui a engagé. Et, par exemple, elle a aussi une très belle chanson qui s'appelle El Quds, qui exprime la nostalgie à l'égard de Jérusalem. Vers toi nomadisent nos regards, se tournent nos regards tels des nomades. Ville trois fois sainte, Tarhalu ilayna, ya madinatu salam, Oyununa, etc. C'est absolument splendide.
Alors, on voit d'ailleurs la nostalgie, cette voix de la flûte qui reste dans votre esprit, Bernard Bajolet. Mais ce qui est très intéressant et peut-être moins connu ou pas assez connu, que ça soit le métier diplomate, bien sûr, mais le métier du renseignement, on se parle beaucoup. Y compris, j'allais dire, avec des ennemis, entre guillemets. C'est-à-dire, on se parle, et c'est peut-être là où le langage, d'ailleurs, a sa plus grande force communicative, parce que il n'y a plus d'apparat, il n'y a plus de mise en scène, on se parle pour se dire des choses.
Voilà, on se parle, et c'est en effet important, on parle à tout le monde, sauf aux terroristes, au fond. Mais on parle à énormément de monde, comme diplomate, mais aussi au niveau des services de renseignement, et on peut se dire vraiment des vérités,
c'est
indispensable, et notamment quand on a un petit peu de mal à se parler par ailleurs. Bon, par exemple, on avait un dialogue avec nos collègues russes très très important, un moment où les relations politiques étaient pas simples. Et Vladimir Poutine a dans ce domaine des collaborateurs qui sont des gens de premier plan, hein, et, avec des Iraniens, avec toutes sortes de pays où on a besoin de se dire, mais pourquoi est-ce que vous avez telle politique? Par exemple, les Iraniens nous disaient, mais pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec nous sur notre programme nucléaire? Vous êtes même plus dur que les Américains. Oui, c'est vrai, on est plus dur que les Américains. Je vais vous dire pourquoi. Et voilà. Et ça permet d'éviter bien des malentendus, bien des difficultés.
Parce que, par exemple, si on prend l'exemple du Sahel, qui est un terrain extraordinairement important pour la France et pour nous tous et pour notre sécurité, vous parlez à toutes les parties prenantes.
Oui, alors au Sahel, bien sûr, comme d'ailleurs ailleurs en Afrique, on parle. Certes, aux chefs des services de renseignement qui sont nos homologues, et qu'on essaie d'aider aussi, hein, à bâtir des services les plus performants possibles. Mais on parle aussi aux chefs d'État. Plusieurs des chefs d'État du Sahel étaient vraiment, je peux le dire, mes amis. Ils le sont toujours. Et ceci, d'ailleurs, était tout à fait complémentaire avec les relations qu'ils pouvaient avoir avec leur homologue français ou le ministre français de la Défense, ou le ministre qui le connaissait aussi parfaitement.
On a des amis dans ce milieu-là, Bernard Bajolet?
Oui, je pense que oui. Alors tous ne le sont pas, mais on peut tout à fait avoir des amis parce que en dehors, il y a des affinités personnelles qui peuvent se créer. Ça marche, encore une fois, ça marche pas avec tout le monde.
Bien sûr.
On n'a pas des atomes crochus avec tout le monde, mais les relations de travail, quand elles sont intenses, peuvent aussi produire une amitié, et l'amitié peut faciliter les relations de travail. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de revoir certains chefs d'État que je connaissais déjà au Moyen-Orient, dont le roi Abdallah de Jordanie, que je peux considérer vraiment comme un ami, personne que j'estime énormément, et puis d'autres que je ne peux pas nommer.
Bien sûr, mais alors, vous parlez à tout le monde sauf aux terroristes. Mais les terroristes, c'est un défi nouveau. Alors, le terrorisme est aussi ancien que le monde, vu qu'on le connaissait déjà dans l'Antiquité, mais n'empêche qu'il a pris un tour particulièrement aigu et qui intéresse directement, j'imagine, la DGSE, parce que la DGSE, c'est la sécurité extérieure, mais la sécurité extérieure, sécurité intérieure, de plus en plus se confondent, Bernard Bajolet.
Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'il a été admis, d'ailleurs ça avait été ma proposition à l'époque, que le chef de file en matière de lutte contre le terrorisme, c'est le service intérieur, c'est la DGSI. Oui. Donc ça permettait en quelque sorte d'éviter toute rivalité dans un domaine où il est, de toute façon, il faut qu'un chef de file, et il était légitime que ce soit la DGSI, puisque au bout du compte, c'est elle qui est au front pour lutter contre le terrorisme sur le sol français. Mais on travaillait étroitement ensemble sur l'amont, puisque l'amont, c'est la DGSE. La DGSE est responsable de l'amont. Hein, de la même façon que la DGSE travaille aussi avec les forces armées sur les théâtres extérieurs, où on a aussi à faire face à une menace terroriste. Et puis aujourd'hui, il y a aussi le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Pierre de Bousquet, qui est placé auprès du président de la République. Alors en fait, c'est un volet de l'action du coordonnateur national du renseignement que j'exerçais déjà sous Nicolas Sarkozy, qui s'est un peu perdu ensuite. Et là, Emmanuel Macron l'a officialisé en rajoutant nommément cette fonction dans les responsabilités du coordonnateur du renseignement. Et ça, c'est tout à fait naturel. Donc, il y a ces interlocuteurs où donc renseignement extérieur et intérieur sont étroitement imbriqués.
On est tenté, j'imagine, quand cette tension nécessaire, objective, entre le renseignement intérieur et le renseignement extérieur, on se dit vraiment tout ou on dit tout au chef?
Alors, non, je pense qu'on a beaucoup progressé. Alors, je vais pas vous dire, vous me croiriez pas d'ailleurs, qu'il y a jamais de tension. Il y en a eu, et il y en a eu parce qu'il y a aussi des cultures qui sont des cultures différentes, la culture du renseignement intérieur, la culture du renseignement extérieur.
Mais les traditions, d'ailleurs, tout à fait.
Oui, les traditions sont différentes. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais directeur général de la DGSE. Mon homologue du service intérieur était Patrick Calvar, qui avait bien connu d'ailleurs la DGSE, puisqu'il y avait été directeur du renseignement, et d'ailleurs largement à mon instigation quand j'étais coordonnateur du renseignement, parce que je voulais rapprocher les deux services. Donc il connaissait très bien la DGSE.
Mais qui était une culture police, Patrick Calvar.
Oui, mais c'est aussi les différences de culture, que d'ailleurs on pratique à l'intérieur de la DGSE aussi. Hein. C'est ces différences de culture qui font qu'on peut avoir un bon travail commun parce qu'on est complémentaires. Encore une fois, il peut y avoir des rivalités, des enjeux de pouvoir, des différences de vues, ça existe, c'est normal, c'est la vie. Mais globalement, ces deux services travaillent étroitement ensemble.
Mais Bernard Bajolet, vous dites la DGSE, c'est l'amont. On se demande aussi, et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs aux États-Unis pour des raisons tout à fait différentes, est-ce que la DGSE, c'est pas aussi le temps long? Est-ce que c'est pas une mémoire, une certaine mémoire des gens, de leurs problèmes, des menaces, et à travers des menaces, des cultures, de ce qui n'évolue pas tant que ça finalement dans le monde, parce que en anglais on dit les services d'intelligence, de intelligence services, ça veut dire c'est on demande à ces services d'être intelligents et d'avoir cette peut-être une vision plus profonde peut-être que l'immédiateté.
Oui, alors Antoine Garapon, vous avez absolument raison. Ce qui est important pour les services, c'est d'avoir des agents qui aient déjà une provenance très différente sur le plan universitaire ou autre. Et c'est d'avoir une connaissance profonde des pays qui nous intéressent. C'est-à-dire de connaître la langue de ces pays, de connaître leur culture, d'y avoir éventuellement été en poste, donc d'avoir vraiment une pénétration intellectuelle forte de ces pays. Et puis en même temps, une grande attention, parce que en dehors, au-delà des menaces immédiates sur notre sécurité, il est important de percevoir des signaux faibles. faible. Par exemple, dans les années 2011, et je l'avais regretté à l'époque, j'étais coordonnateur du renseignement, nous n'avions pas vu venir les printemps arabes. Et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Ni les diplomates, d'ailleurs...
Et personne dans le monde. C'était spécifique à la France ou c'était... Personne
non, je vois que c'était assez largement répandu. Mais la France, qui est supposée avoir une expertise particulière de ces pays, a été particulièrement prise en défaut. Oui. J'ai dû le reconnaître. Et pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas fait? Donc c'est aussi l'importance de percevoir des signaux faibles qui peuvent nous renseigner sur l'évolution de ces pays. Normalement, c'est un travail de diplomate. Hein. C'est pas seulement un travail de renseignement. Et signaux faibles, c'est qui peuvent nous permettre d'anticiper des mouvements sociaux. Bon, par exemple, il est aussi important de savoir comment, quels sont les grands mouvements dont je prends cet exemple là en Chine. Comment la Chine peut-elle évoluer sur un plan intérieur? C'est aussi important d'avoir cette connaissance profonde de la société chinoise, des enjeux, des tensions, que de ce qui se passe dans l'entourage du président Xi Jinping, par exemple. Parce que c'est important pour notre avenir, de savoir ce qui va se passer dans une puissance qui est appelée à devenir la première puissance économique mondiale. Mais je dirais la même chose de tous les pays.
C'est un peu ce que souligne Ben Israël dans son livre, un livre très intéressant sur la philosophie du renseignement. Il dit il y a un paradoxe du renseignement et on sent que les Israéliens sont traumatisés par le fait de ne pas avoir anticipé l'attaque du Yom Kippour et d'avoir perdu 6 heures de temps de rapatrier les troupes, de mobiliser, qui n'ont pas été fatales, mais qui ont été quand même un retard. Et la grande question que se pose le renseignement israélien, c'est de se dire pourquoi, alors qu'on avait des éléments, comme les personnels russes qui sont rapatriés à Moscou, le grand moufti d'Égypte qui libère de l'obligation du Ramadan, les troupes, etc. Il y avait quand même des signes faibles, comme vous dites. Et une des conclusions, c'est la question que je vous pose, il dit, en quelque sorte, il y a un paradoxe du renseignement, c'est qu'il faut que son prélèvement, son recueil soit extrêmement secret, pour avoir des informations rares, et il faut que son interprétation soit la plus ouverte possible, ou plus exactement, qu'elle ne soit pas faite par des gens qui ont la déformation du renseignement, qui sont devenus un peu parano, pour parler familièrement
de Ramajolais. Parce que je crois que la clé, Antoine Garapon, ça me paraît être la compréhension de la culture des pays en question et de se mettre à leur place, de savoir mais comment est-ce qu'on raisonne, comment c'est peut-être pourquoi les Israéliens ont fait cette erreur, c'est qu'ils ne se sont pas mis dans la tête
à la place de l'autre,
c'est ça, à la place de l'autre. Ça c'est fondamental et ça demande un effort. Pourquoi est-ce qu'en Irak les Américains qui avaient tellement plus de moyens que nous n'ont pas vraiment anticipé la situation? Je parle de la période 2003-2006, qui est celle que j'ai vécue là-bas, après la chute du régime de Saddam Hussein. Pourtant, ils avaient énormément d'agents de renseignement, ils payaient beaucoup de monde, mais parce qu'il y a une question culturelle. Pour comprendre les choses, il faut bien comprendre la culture du pays dont il s'agit.
Oui, c'est ça. Et alors, comprendre la question culturelle, ça amène à un autre aspect, je sais, qui vous tient à cœur, Bernard Bajelet, qui est celui de du soutien de la communauté du renseignement par la communauté nationale tout entière. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne où il y a une véritable culture partagée du renseignement. Les meilleurs d'Oxford ou de Cambridge peuvent aller, je dis pas qu'ils vont toujours, mais ils peuvent aller dans les services de renseignement, ils peuvent en sortir aussi, et il y a cet anglais. En France, on n'est pas une culture de renseignement chez nous en France.
Non, mais les choses évoluent, et elles évoluent positivement, je crois, sous l'influence de plusieurs facteurs. Bon, il y a eu l'innovation qui est due à Nicolas Sarkozy, de la délégation parlementaire au renseignement, aussi qui a en quelque sorte donné un volet démocratique au renseignement. Cette délégation parlementaire au renseignement, elle a été renforcée sous François Hollande. Elle n'assure plus seulement un suivi, mais maintenant un contrôle. Et elle le fait très bien. D'ailleurs, je crois. Bon, ensuite, il y a eu des événements comme le bureau de la série, le bureau des légendes. Et ceci...
Que vous avez encouragé, vous.
Bernard, que j'ai vraiment encouragé. C'est un travail vraiment de collaboration tout à fait passionnant avec une équipe très professionnelle qui était celle de Éric Rochant et Alex Berger qui est le producteur. Et si ça a bien marché, des acteurs remarquables. Mmh. Et si ça a bien marché, c'est pour deux raisons. C'est d'abord parce que la DGSE s'est professionnalisée. Elle n'a pas... Rochon lui-même me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit il y a 20 ans j'aurais pas fait ça, j'ai fait les Patriotes parce qu'il y avait un côté amateur, lui semblait-il à l'époque, et ça...
Que vous
ça,
confirmez c'est... vous Bernard Bajolet, cet amateurisme un petit peu des services
d'autrefois
oui.
Oui, il y a eu des exemples, les choses ont au cours des 20 dernières années beaucoup évolué à tel point que maintenant la DGSE est un service hautement professionnel avec des recrutements qui sont diversifiés, je le disais tout à l'heure. Et donc Rochon a estimé que là, ça valait le coup de faire une série. Et mon apport à ça, ça a été de lui ouvrir nos portes, pas nos secrets, mais de lui ouvrir les portes, de lui faire rencontrer des personnels de la DGSE, hommes et femmes, car on a heureusement de plus en plus de femmes aussi dans ce service, pour qu'ils puissent s'imprégner de la dimension humaine. Et ça ressort très très bien. Et puis des différentes missions de la DGSE, c'est-à-dire contre-terrorisme, certes, mais aussi la géopolitique, le soutien à la politique étrangère de la France, la lutte contre les armes de destruction massive, la prolifération. Et tout ça donc est bien traduit, l'utilisation des différents moyens techniques, les moyens renseignement humain qui reste très important, et le renseignement, les moyens opérationnels, bon, tout ça est bien vu. Et puis il y a eu aussi un concours dans les établissements secondaires qui s'appelle le concours qui s'appelle toujours d'ailleurs Al-Kindi.
Oui.
Et ça c'est une idée du directeur technique de la DGSE au départ, qui s'appuyait sur des associations de mathématiciens, de professeurs de maths.
Le but c'était d'initier
des jeunes à la cryptologie et d'apprivoiser la jeunesse par rapport au service, donc de commencer à créer une culture du renseignement. Et ce concours a eu énormément de succès, puisque dans la dernière édition, 60 000 élèves ont participé.
Incroyable. Mais alors Bernard Bajolet, cette émission approche de sa fin, vous êtes maintenant retiré de toutes ces, aussi bien de la diplomatie, vous restez ambassadeur de France et de la DGSE, quel vœu vous formuleriez pour le renseignement en France, pour peut-être une meilleure intégration dans la République, pour une plus grande efficacité?
Écoutez, je pense d'abord, ce qui me paraît en effet important, c'est que le public, maintenant, perçoive le renseignement comme une partie intégrante de l'État, au service de l'ensemble de la collectivité, de sa sécurité, de l'efficacité de notre politique étrangère. Je crois heureusement que c'est de plus en plus le cas. Et on voit, moi je suis très encouragé aussi par l'attrait que les services, pas seulement la DGSE, mais aussi la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, les services du ministère de l'Intérieur, exercent sur les jeunes. Je crois que c'est une très très bonne chose.
Source d'espoir pour l'avenir.
Source d'espoir pour l'avenir, absolument.
Eh bien merci beaucoup Bernard Bajolet.
Merci à vous Antoine Garapon.
Matière à penser, Bernard Bajolet, Delphine Bedet, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous avec un invité dont je ne pourrais pas vous donner le nom parce que c'est un ancien des services Action et qui a souhaité garder l'anonymat. À demain.